Aujourd'hui sur France Inter, ne demandez pas la lune, juste Nicolas Hulot à Saint-Lunaire dans C'est de mon amour.
Le dimanche, 13h20, Denis Chessoux.
Il vit dans son lieu d'enfance en Bretagne, une plage comme ancrage dans un monde qui tangue. La nature, les marées, le malentendu du progrès, le règne de l'argent, nos dénis, secouez le tout et écoutez Hulot au grand air dans l'éclat des embruns.
CO2 Mon Amour, votre magazine nature du week-end.
Tous les dimanches sur France Inter à 13h20.
Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. Commerçants, artisans, entreprises, nous vous accompagnons dans la mise en place de nouvelles solutions digitales. Vente à distance, paiement en ligne et sécurité de vos données. Contactez-nous pour plus d'informations. BNP Paribas, engagé à vos côtés.
Face aux défis environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, nous pouvons choisir la détermination. Il existe un geste d'espoir, simple et concret, qui restera même après notre décès. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps, pour cette terre à laquelle nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr.
Dans 3 minutes, Jean-Noël Jeanneney, invité de la matinale, juste après cette chanson de Pomme.
D'eau, extrait donc du deuxième album de Pomme. Il est 8h21 sur France Inter.
France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Et nous accueillons un homme qui publie le premier tome de ses mémoires, des pages qui se confondent avec l'histoire politique et culturelle de la France. Ce premier tome va du retour de De Gaulle en 58 jusqu'à l'arrivée de la gauche mitterrandienne en 80 et même 82. Vous êtes, alors la carte de visite est assez longue, hein, historien, professeur émérite des universités. Vous avez été président de Radio France, de RFI, vous avez été la tête pensante du bicentenaire de la Révolution, membre de deux gouvernements époque Mitterrand. ancien président de la
BNF. Il
ne
restera plus de temps pour les questions.
Et j'ai plus beaucoup de souffle non plus. On pourrait aussi parler de votre rôle au sein des rendez-vous de l'histoire de Blois et votre émission hebdomadaire sur France Culture. Ouf! Bonjour Jean-Noël Jeannonet.
Bonjour, bonjour.
Le rocher de Sustaine, donc, hein, c'est le titre de ce premier tome de vos mémoires paru aux éditions du Seuil. J'évoquais 1958 avec le retour de Gaulle. Vous n'aviez que 16 ans à l'époque. Or, vous pouvez effectivement témoigner des coulisses de cette histoire, car vous y étiez grâce à votre famille. Je vais citer votre père, Jean Marcel, ministre de Gaulle, et votre grand-père, Jules, président du Sénat. Est-ce que la famille Jeannonet vous emmenait comme ça, facilement, dans les coulisses du pouvoir ?
Cela dépendait du moment, le pouvoir n'était pas toujours présent. C'est à partir de 1958 que mon père, qui était universitaire, a été amené à entrer dans le gouvernement du général de Gaulle comme ministre de l'Industrie. Et comme il se trouve que nous étions vraiment intimes, et qu'il avait le goût de raconter en famille, en particulier à moi-même, j'ai été de fait assez proche de beaucoup de décisions. Et j'ai eu le goût d'y être attentif.
Il y a notamment ce dîner que vous racontez à Colombey, à la Boisserie, en 69. Vous aviez 27 ans, on va y revenir dans un instant. Biberonné, donc, vous venez de le dire, à la politique. Pourquoi preniez-vous des notes si jeunes ? Aviez-vous déjà conscience que vous auriez un jour à témoigner pour la postérité ?
Pourquoi tient-on un journal ? Oui, il y a probablement plusieurs motifs. Le goût à mesure de clarifier un peu ses idées, de noter ses curiosités. Et puis peut-être déjà le sentiment qu'il était intéressant d'observer. J'étais attentif à beaucoup de journaux qui ont été publiés par beaucoup de gens. Et je me suis dit que c'était une façon, peut-être étais-je déjà un peu historien en herbe, d'empêcher que le présent vous file entre les doigts, comme du sable. L'idée de garder trace. Il ne s'agissait pas de se poser en écrivain, ni de faire des carnets auto-centrés. Ah, ce matin, j'avais un peu mal à la tête. Ce n'était pas Amiel, vous voyez, ce diariste suisse qui a écrit des journaux interminables en se regardant lui-même éprouver une multitude d'émotions. Mais c'est un journal extraverti.
Mais il y a tout de même ce que Pierre Nora appelait de l'ego-histoire, en fait, raconter votre histoire pour mieux éclairer votre propre parcours aussi.
Oui, oui, enfin à un moment donné, approchant d'un âge qui commençait d'être légèrement mûr, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant effectivement de fixer tout ça, puisque bon, chacun a une vie originale, mais la mienne avait été effectivement à la rencontre entre la vie culturelle, la vie intellectuelle et des postes d'observation de la politique.
D'ailleurs, Daniel Cordier, qui vient de mourir, lui aussi prenait des notes. Alors lui, il disait pour ne pas laisser la propagande s'installer, pour apporter un autre angle historique le jour venu. Y avait-il cette même démarche chez vous, très jeune ?
Je suis heureux que vous évoquiez Daniel Cordier, parce que notre corporation est en deuil. Il s'agit d'un grand personnage. On va le célébrer, je crois, aux Invalides, et je me disais qu'on aurait pu aussi le célébrer dans la cour carrée et dans la cour de la Sorbonne,
puisqu'il
est devenu à 60 ans un historien. Nous sommes parfois un peu méfiants, nous autres, de la corporation à l'égard de ceux qui n'ont pas de titre universitaire. Eh bien, il a été agréé
hostile,
comme essentiel.
Parfois, pas seulement agréé. Méfiant.
Oui.
Ils sont assez corporatifs.
Et on aurait pu aussi le célébrer au Louvre, puisqu'il a fait des dons magnifiques comme marchand d'art au Centre Pompidou. Et puis, naturellement, la première période, celle qu'on célèbre surtout, c'est-à-dire celle qui va faire que le président de la République va le célébrer à juste titre aux Invalides.
Vous savez la date, on ne la connaît pas pour l'instant. Vous avez
non, c'est vous qui êtes journaliste, pas moi.
On va enquêter alors.
Pour en venir, Jean-Noël Jeannonet, au titre de votre livre, Le Rocher de Sustaine. Sustaine, c'est en montagne, c'est un col, et c'est un endroit où vous avez échappé à la mort.
Dans les Alpes suisses.
Dans les Alpes suisses. Vous dites avoir été ensuite étonné d'être en vie. Est-ce que cela dure toute une vie, au fond, ça ? Sachant que lorsque vous étiez tout petit, vous aviez 16 mois, les vitres des fenêtres de l'appartement familial avaient explosé. Mais ceci est encore une autre histoire. Mais ce jour-là, cet accident-là a été pour vous un élément qui a beaucoup compté dans votre vie ?
Il a compté forcément. J'étais en deux chevaux au retour de Grèce avec deux amis, deux camarades, et nous avons vu devant nous, à quelques mètres, un énorme rocher écraser une énorme voiture suisse. Effectivement, j'y ai souvent repensé. Pour un historien, c'est l'occasion, la possibilité, la chance de réfléchir à la place de l'histoire. dans l'histoire, la place du hasard, pardon, du hasard dans l'histoire. Parce que l'histoire est toujours tissée de mouvements profonds qui déterminent chaque conjoncture. Et puis, ce qui arrive d'inattendu, c'est ça qui la rend si intéressante.
Et la contingence, qui est aussi une partie intrinsèque de l'histoire.
Oui, 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 absolument. Elle est très présente. Et c'était une façon, pour moi, de le rappeler, une façon de réfléchir aussi à toutes les chances que la vie m'a données, dès le berceau. Et qui m'ont permis ce type d'itinéraire qu'Éric Delvaux venait d'évoquer.
Alors, il y a donc ce dîner en famille chez les De Gaulle. Nous sommes en 69, donc quelques mois, 7 ou 8 mois après le référendum, l'échec du référendum du 27 avril. Une retraite d'ailleurs dont semble se réjouir son épouse Yvonne, visiblement plus heureuse qu'avant, écrivez-vous. C'est aussi un portrait que vous brossez d'elle dans ce livre. Je fais une parenthèse, des portraits ciselé avec une vraie plume, et je referme la parenthèse. Portrait d'Yvonne de Gaulle chez vous.
Oui, du général à vrai dire, mais de Madame de Gaulle qui était évidemment contente d'avoir retrouvé son mari dans ce décor particulier, cette gentilhommière.
Vous écrivez qu'elle se tenait sur des chaises toujours un peu raides. Il y a cette rudesse protestante chez elle.
Oh, protestante, non, elle était vraiment pas protestante, elle était catholique, éminemment, mais enfin peut-être janséniste alors.
Janséniste plutôt que protestante.
Non, c'est vrai que c'était un événement pour moi tout à fait fascinant, et vous ne vous étonnez pas que j'ai pris des notes, puisque De Gaulle avait invité chez lui seulement 4 de ses anciens ministres.
Ceux Malraux, oui. Il y avait votre père,
Mesmer,
et le dernier, j'ai oublié.
D'un Couve de Murville.
Voilà, Couve de Murville.
Couve de Murville, oui.
Il n'aimait pas se pencher avec les ministres qui copinaient avec Pompidou.
Oui, en tout cas, qui copinait, qui avait accepté d'entrer dans ses gouvernements, effectivement. C'est pourquoi Michel Debré était si triste de ne pas être invité. En tout cas, il avait dit à mon père, si quelqu'un parmi vos enfants veut conduire la voiture, il sera le bienvenu. Mon père me l'a proposé.
Vous aviez votre permis,
et ça a été, effectivement, je raconte ça longuement, parce qu'effectivement, c'est un moment tout à fait passionnant que de le retrouver là, dans sa retraite.
Et c'est une très belle photo qu'il y a en bandeau de votre livre, d'ailleurs, où il y a votre papa, il y a donc
Madame de Gaulle.
Madame de Gaulle et le général, et il y a vous.
Oui, oui, oui. Ma mère a osé de dire au général, mon général, est-ce que je peux prendre une photo? J'ai trouvé qu'elle était très audacieuse, je m'en suis réjoui. Alors il est sorti devant son...
À la boisserie. Hein.
À la boisserie, oui. Et il a dit à Yvonne, venez donc. Et elle est sortie.
Et elle a un très joli mouvement des mains, comme ça, sur le cœur.
Elle a mis un châle parce qu'elle avait froid. Ouais,
Quelles sont les femmes qui ont compté dans votre vie, Jean-Noël Jeannet? Je me permets de vous poser la question parce que vous en parlez dans votre livre, y compris sur un plan très, très personnel. Mais vous parlez de votre mère, vous parlez de votre grand-mère, vous parlez d'une institutrice aussi.
Non, je ne parle pas beaucoup de ma vie affective personnelle. Je trouve qu'il y a
d'abord... Il y a une femme dont vous parlez...
Mon épouse, oui, voilà. Oui, bien entendu. Non, mais oui, bien. Je ne l'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'étais très heureux avec elle pendant le temps où nous avons été mariés. Je pense que, oui, je fais une grande place à ma grand-mère, effectivement. Ma grand-mère était une personnalité qui m'a beaucoup intéressé à toutes sortes d'égards. Elle était d'origine protestante, elle s'était détachée du protestantisme, elle avait une vocation d'historienne.
C'était une grand-mère maternelle.
Maternelle, oui, maternelle. J'ai des ancêtres protestants de ce côté-là, beaucoup de pasteurs. Et elle avait été très marquée par l'affaire Dreyfus, ce qui fait qu'il y a eu quelque chose comme un rebond dans ma mémoire de ce moment décisif où la France a été coupée en deux autour d'un certain nombre de principes majeurs. Elle me le racontait. Elle avait rêvé d'être historienne à temps plein, mais c'est une génération, c'est la pire période, enfin, pour les femmes de la bourgeoisie entre 1850 et 1950 à peu près. C'est-à-dire, elles étaient vraiment vouées à rester subordonnées et elle a néanmoins développé des activités féministes pour aider les femmes diplômées des universités, etc. Bref, elle m'a vraiment marqué, elle était très cultivée. Oui, chacun, je pense, a... comme ça, un certain nombre de personnalités qu'il aime évoquer. Il y avait cette grand-mère maternelle, et puis il y avait ce grand-père paternel que j'ai bien connu aussi, qui pour moi incarnait la Troisième République, une activité politique importante. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de naître dans ce milieu. C'était une bourgeoisie qui n'était pas d'affaires. On regardait l'argent toujours avec quelques distances.
Oui, c'est ça, d'une façon d'ailleurs un peu parpaillotte.
Oui, oui, bien sûr. Mais de l'autre côté aussi, bien que mon grand-père était simplement représentatif de la promotion sociale de la Troisième République.
Quelques-uns de vos amis, Jean-Noël Jeannonnet, vous croient du centre droit. Or, vous avez soutenu Mitterrand.
Comment peuvent-ils le croire?
Dès 1974.
Parce qu'ils vous connaissent.
on lit aussi les mots d'héritier, qui sont des valeurs un peu de à droite et de centre droit. Vous avez soutenu cependant Mitterrand dès 1974. Vous, le fils d'un ministre du général de Gaulle, vous avez dû en décevoir des proches autour de vous.
Mais je n'ai déçu personne. Chacun savait très bien que mon père se situait à la gauche du
gaullisme. Je dis ça parce que vous écrivez dans votre livre qu'on vous a même proposé un siège à droite.
Ah oui,
de la députation.
Oui, c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas. Effectivement. Oui, j'avais rencontré Joël Le Teul qui était... Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre, mais j'essaie de les replacer dans une continuité et une réflexion. À quoi vous m'invitez?
Absolument.
Joël Le Teul, qui était ministre des armées, de fait, je l'avais rencontré. J'étais à gauche et je n'étais pas sectaire, curieux de toute chose. Et donc, quand il est mort, son suppléant m'a appelé en me disant éventuellement, est-ce que vous accepteriez de venir dans la Sarthe? Parce que je pense que Le Teul aurait aimé que ce soit vous. J'ai dit, j'étais très touché. C'était la circonscription de François Fillon. Donc j'ai dit que c'était pas ma famille, que j'étais vraiment pas là. Et il m'a dit, ah bon, je le regrette, très bien. Mais ça m'amuse rétrospectivement, la contingence, de penser que si j'avais été élu dans cette circonscription, le destin de M. Fillon aurait peut-être été un peu différent. À chaque tournant, j'aime assez évoquer les moments où le hasard réside. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, qu'il y a des lignes de force. Et celle qui me situe là où je vous dis que je suis, c'est-à-dire toujours à gauche, dans une gauche de gouvernement. Je voyais à quel point mon père a représenté à cette époque, dans le gouvernement de De Gaulle, ce courant-là, la tradition Dreyfusard, tradition radicale socialiste. Il s'est battu pour la laïcité, il s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, je l'ai vu constamment. Et pour la participation. Dans le deuxième temps, il était ministre des Affaires sociales, et c'est le Premier ministre Pompidou et surtout son collaborateur Balladur qui l'ont en particulier empêché d'avancer dans la voie de la participation que De Gaulle souhaitait. Alors c'est bien la gauche, hein, c'est bien la gauche. Non, je ne sais pas qui vous avez rencontré qui vous a dit que j'étais au centre droit. Je m'y sentirais très mal à l'aise.
J'ai lu votre livre et vous avez raconté l'anecdote à l'instant. Vous parliez de hasard. Le hasard, c'est d'habiter aussi rue de Bièvre à Paris, voisin de François Mitterrand, et le hasard vous conduit là encore à rentrer, à passer le portail et rentrer dans la petite cour de la rue de Bièvre chez les François Mitterrand, chez les Mitterrand. Nous sommes le lendemain de l'élection du 10 mai.
Non, le matin.
Le matin du 11 mai, oui.
Oui, c'est-à-dire que Mitterrand vient de rentrer chez lui après avoir été salué...
À la Bastille.
À Bastille, je crois, au Parti Socialiste. Et effectivement, une amie qui est là, une voisine et amie, me dit, tiens, viens donc, on va essayer d'entrer. J'entre effectivement dans cette petite courette du 22 rue de Bièvre. C'est l'occasion, naturellement, de raconter l'impression que j'ai eue.
Et non, c'est intéressant parce que la poignée de main sur l'homme, et pour connaître un peu mieux l'homme Mitterrand à travers vos lignes, la poignée de main était courtoise, mais sans chaleur, toujours un peu distant, voire condescendant, peut-être un peu aussi.
Je pense qu'il était soucieux, c'est l'impression que j'ai eue, un peu subjective, de montrer qu'il n'était pas vraiment étonné de ce qui arrivait. Et qu'il y avait une espèce d'évidence que ça avait été un peu tardif peut-être, mais en même temps il était extrêmement courtois, il était là parmi les siens, oui, un peu de distanciation qui a toujours été, quand je l'ai vu plus souvent après, dans les fonctions que j'ai pu exercer, j'ai toujours vu ce tempérament de contrôle de lui-même, et qui était notamment, il se protégeait notamment par la qualité du langage. Et c'était une façon de en quelque sorte, de résister à la tentation de l'immédiateté et de l'évidence. Enfin, il faudrait me réinviter pendant une heure si vous voulez que je fasse un portrait de François Mitterrand. Je renvoie à mon livre.
On peut aller juste encore une ligne plus loin.
Je vous en prie.
Vous écrivez que François Mitterrand, une fois élu, était obsédé de ne pas se définir tout le temps par rapport à son meilleur ennemi politique, Charles de Gaulle.
Ah oui, c'était une autre façon, m'a-t-il semblé, d'exercer sa liberté, d'exercer sa distance, et en même temps il y pensait beaucoup. Il m'en a parlé dès le soir même de son élection du 10 mai dans sa cour, et il disait si souvent qu'il ne voulait pas se définir par rapport à lui qu'on finissait par se demander si quand même il n'en était pas, je dis pas du tout obsédé, mais préoccupé. Et après tout,
vous parlez d'obsession,
il avait quelques motifs d'être attentif à ce qu'avait été le général de Gaulle à la tête de notre pays.
Jean-Noël Jeannet, vous racontez aussi, parmi tous les souvenirs de jeune homme, là, vous avez accompli à un moment donné, et pendant un certain temps, vous avez accompli une sorte de tour du monde.
Oui.
Vous êtes allé en Asie, vous avez achevé ce voyage aux États-Unis, et se frotter à autrui, un autrui qui est différent, paraît essentiel à vos yeux. Vous vous référez en la matière à Montaigne, qui trouvait que c'était une des plus belles écoles de la vie.
C'est Montaigne qui disait qu'il réfléchissait à saut et à gambade. C'était un peu ça. Oui, je sortais d'études assez classiques, à l'école normale, agrégation, etc.
Avec une compétition, un système de compétition qui vous plaisait beaucoup.
Ah oui, j'ai jamais détesté.
Dans lequel vous étiez très à l'aise.
Oui, c'est une chance. Mmh. Il y a le système de l'époque ne convenait pas à tout le monde. Et beaucoup de talents s'y échouaient ou on était malheureux. Donc moi, ça m'allait. Je m'amusais d'essayer d'avoir le prix d'excellence. Mmh. Mais le sujet est autre. Et après, on était quand même très, très clos entre nous, même si à l'école normale, il y avait une grande liberté. Ouais. Et donc, l'idée à ce moment-là, vers 18 ou 20 ans, vers 20 ans, de faire un tour du monde, m'a beaucoup séduit. Il s'est trouvé qu'une fondation Saint-Germain-Polignac proposait un tour de l'argent pour le faire. Ce n'était pas la bourse d'Elijah, c'était généreux. Donc, effectivement, je me suis dit, pendant un an, je vais faire un tour du monde. Peut-être une tradition aussi ancienne qui remontait au 19e siècle. Et chaque fois, je me suis efforcé de ne pas me laisser enfermer dans les petites communautés françaises accueillantes, mais d'aller sur le terrain. Et un des procédés que j'ai trouvé, c'est d'accompagner un parlementaire dans sa circonscription. Je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai beaucoup appris.
L'un des chapitres de votre livre de mémoire vous réfère au goût votre goût des médias. Je rappelle, ancien président de Radio France, ancien président de RFI. Où vous situez-vous aujourd'hui dans le débat d'actualité sur les projets du gouvernement qui veut pénalisation de la diffusion d'images de forces de l'ordre si elles ont pour but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre? Moi, il y a eu des manifestations de journalistes et autres associations de défense de la liberté hier soir à Paris et en France.
Je me réfère toujours à la loi lumineuse de 1881. On ne cesse pas d'y trouver des inspirations pour réagir. Regardez l'affaire du blasphème, magnifique débat à cette occasion. Considérez aussi la question si importante de l'éventuelle condamnation de ceux qui incitent à la violence. Il y a eu de grands débats à ce moment-là. Est-ce qu'avec des glissements, toujours, le risque de glissement vers la mise en cause de doctrines qui souhaitent modifier la société. Vous souhaitez la modifier, vous l'affirmez, il y a des extrêmes qui vous suivent, à ce moment-là, vous êtes responsable. Il faut se méfier de ça. Alors, je crois que ce rappel concerne aussi l'article 24. Pour ma part, je suis de ceux qui n'ont pas aimé du tout cette perspective, mais vraiment pas du tout. Peut-être parce que je me sens tout petit peu journaliste d'honneur à Radio France, mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y a évidemment, tous les juristes, je suis pas juriste, nous le disent, des moyens de s'en prendre à ceux qui prononceraient des menaces de mort à l'égard de tout le monde, et en particulier des journalistes, des policiers. Et cela doit suffire. Je me méfie toujours, comme historien et comme citoyen, de ces lois que l'on fait pour la montre, que l'on fait à l'occasion d'une émotion provisoire. C'est toujours extrêmement dangereux. Regardons ce que la législation intérieure nous propose. Elle nous propose beaucoup. Elle nous propose tous les moyens à cet égard, me semble-t-il. Et en tout cas, la publicité, elle est une forme elle est une base fondamentale de la démocratie.
Au regard de l'histoire, cette gouvernance, on va dire, à l'émotion, dans l'instant, ça génère souvent des séquences liberticides.
Oui, regardez ce précédent à quoi je me réfère forcément. Souvent, le précédent des attentats anarchistes dans les années 1890, ça a entraîné, c'était la seule fois sous la troisième, des modifications de la loi de 81 dans un sens répressif. Et on en a vu les inconvénients, c'était des lois scélérates. Heureusement, ensuite, elles sont devenues obsolètes. C'est tout ce que je souhaite à l'article 24.
Mais aujourd'hui, il y a les réseaux.
Oui, alors ça, c'est un autre sujet et ça change énormément de choses. La démocratie
est autre. C'est le même sujet, je pense, les réseaux et les lois liberticides qui arrivent en même temps. Partisan, vous le disiez, d'une gauche réformiste, pourquoi ne vous êtes-vous jamais inscrit au Parti Socialiste?
J'ai hésité dans les années 1970. Il y avait deux choses que je ne pouvais pas accepter dans ce qui s'affichait. C'était l'idée d'abord de rupture avec le capitalisme, ça me paraît absurde. Le capitalisme, ça permet, comme disait De Gaulle un jour, aux gens de se dégourdir. Simplement, il faut s'en méfier, il faut que l'État le surplombe. Mais je ne voyais pas qu'on... Ça me paraissait démagogique. Et puis surtout, ce qui m'avait heurté, c'était l'idée qu'on renonce à la bombe atomique, à la défense nucléaire, qui me paraissait, pour l'autonomie, la liberté d'un pays, et finalement de ses citoyens, un outil fondamental.
La politique de dissuasion de la France.
Et ce sont les deux raisons. Et puis ensuite, comme j'ai eu le bonheur d'être désigné par la Haute Autorité comme président de cette maison, où je suis si heureux chaque fois d'être, je n'allais plus m'inscrire à un parti. Et finalement, quand Mitterrand m'a reçu, je raconte longuement nos entretiens, quand il m'a reçu, il m'a dit, vous savez, tout le monde n'est pas socialiste ici. Certains le sont, bien sûr, mais tout le monde ne l'est pas. Ne vous inquiétez pas.
Jean-Noël Jeanneney, donc ses mémoires, ce premier tome s'appelle Le Rocher de Sustaine, mémoire 1942, c'est votre date de naissance, jusqu'en 1982. Le deuxième tome est prévu?
Oh, bien sûr qu'il est prévu. Vous ne pensez pas que je ne vais pas parler de Radio France?
Quand je dis qu'il est prévu, ma question était pour quand?
Ah ben, le temps que je l'écrive, je pense deux ans à peu près, deux ans, deuxième tome.
De Gaulle avait dit, il lui fallait 4 ans, 69, pour écrire ses mémoires, malheureusement, ça ne lui a pas laissé le temps. On vous accueillera,
Qu'est-ce qu'il dit
Je ne faisais aucun parallèle. Merci Jean-Noël Jeannonet et à bientôt, bonne journée.
Merci de votre accueil.